Voici une question dont la réponse pourra satisfaire tous ceux qui désirent savoir. Selon la parole de Dieu, à quelle époque sommes-nous rendus? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse à laquelle nous devons tous porter attention aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, c'est vraiment intéressant d'apprendre à quelle époque on est rendu aujourd'hui. Et vous allez voir qu'on va en savoir beaucoup plus à ce sujet, alors que le livre de Daniel va répondre aux questions que voici. Est-ce que c'est par nos mérites que nous pouvons adresser nos prières à Dieu? Est-ce que tous les hommes sont pécheurs? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bien-aimé dans le ciel? Qu'est-ce qui va se passer pendant les 70 semaines décrites dans le livre de Daniel? Quel peuple sera concerné pendant ces 70 semaines? Quels événements se produiront entre la 69e et la 70e année? Selon le prophète Daniel, dans quelle période vivons-nous aujourd'hui? Demeurez à l'écoute, la Bible, le livre merveilleux de Dieu, va répondre à chacune de nos questions par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, tu nous enseignes tout sur les époques, sur tous les événements. Il n'y a rien qu'on ne peut pas trouver dans ta parole. On t'en remercie, Seigneur. Merci pour ce livre merveilleux qui nous fait connaître ta pensée. Instruis-nous aujourd'hui, qu'on puisse s'approcher davantage de toi, mon Dieu. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons examiné la prière de Daniel. Nous avons expliqué que la prière est une action douloureuse. Souvent, elle est un cri du cœur adressé à Dieu, et faite avec des supplications et du jeûne. La prière de Daniel a été planifiée, et elle est allée droit au but. Nos prières devraient être davantage ainsi. La prière, élevée avec foi vers Dieu, est puissante. Une prière doit aussi être personnelle et privée. En fait, si une prière n'est pas personnelle, peut-elle être faite avec foi? Nous avons vu aussi que la prière de Daniel a été motivée par une étude de la parole de Dieu. Lorsque Daniel a confessé les péchés de son peuple, il s'est identifié à son peuple. Il a été très spécifique en énumérant tous les péchés lorsqu'il les a confessés. De plus, Daniel n'a pas cherché à justifier le péché du peuple, ni les siens. Il a reconnu que Dieu avait été juste. Lorsque nous justifions notre péché en le confessant, nous blâmons Dieu pour notre péché. Aujourd'hui, nous reprenons notre étude au verset 19 du chapitre 9 du livre de Daniel. C'est le point culminant de la prière de Daniel. Chers amis, débutons la lecture du prophète Daniel, chapitre 9, verset 19. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Nous ne pouvons pas plaider nos mérites devant Dieu. Quelle plaidoirie! Daniel ne plaide pas les mérites du peuple. Il n'irait pas loin avec un tel argument. Il plaide les promesses de Dieu et il fait appel à qui Dieu est. Daniel ne plaide pas parce qu'il est Daniel. Il s'identifie avec le peuple en disant « Nous avons péché ». C'est la réputation de Dieu qui est en jeu. C'est la gloire de son nom. Daniel plaide la gloire de Dieu. Moïse aussi avait plaidé la gloire et les promesses de Dieu lorsqu'il a voulu obtenir le pardon de Dieu pour le peuple qui avait fabriqué un veau d'or. Moïse s'était aussi identifié à son peuple. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. » Citation d'Exode, chapitre 32, versets 11 à 13. La prière de Daniel a été efficace. Il n'avait pas encore terminé sa prière que la réponse de Dieu lui est parvenue. Le verset 20. « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. » Tous les hommes sont pécheurs. Daniel dit « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché. » Notez que le prophète Daniel dit « Mon péché ». Daniel a reconnu qu'il était un pécheur. Cependant, il est intéressant de noter que la Bible ne mentionne aucun péché commis par Daniel. En fait, lorsque ses ennemis ont voulu l'accuser, ils n'ont rien trouvé à lui reprocher. Soyez assurés qu'ils ont bien fouillé partout dans le passé de Daniel. Le pasteur J. Vernon McGee répétait souvent, et avec raison, que personne n'a jamais été sauvé par l'observation de la loi. Un soir, alors qu'il avait de nouveau répété cet énoncé, un étudiant est venu trouver le pasteur McGee pour lui indiquer que Daniel n'avait jamais commis de péché. Ce n'était pas le cas, car si la Bible ne rapporte pas aucun péché commis par Daniel, celui-ci était conscient d'être pécheur. « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché », a écrit Daniel. La Bible dit la vérité lorsqu'elle affirme « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Romains chapitre 3, verset 23. Si vous vous demandez quel péché a commis Daniel, permettez-moi de vous dire que cela ne nous regarde pas. Dieu n'a rien rapporté dans sa parole. Daniel était donc un pécheur comme nous tous, et nous pouvons toujours affirmer que personne n'a été sauvé par l'observation de la loi. Daniel s'en est remis à la miséricorde de Dieu pour son salut et celui de son peuple. « Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. » Cette montagne est Jérusalem et le royaume de Dieu qui y sera établi. Voir Ésaïe, chapitre 2, versets 1 et 2. Revenons au prophète Daniel, chapitre 9, lisons cette fois le verset 21. « Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. » L'homme Gabriel. Gabriel était un ange et il est apparu sous une forme humaine. Il est apparu à l'heure du sacrifice du soir, heure de Jérusalem. Cela nous place donc vers 15 heures. Gabriel a annoncé une prophétie, ce qui fait de ce chapitre un texte clé pour l'étude de l'eschatologie, c'est-à-dire pour l'étude des événements de la fin des temps. Lisons les versets 22 et 23. « Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Le croyant est aimé au ciel parce qu'il est dans le Christ Jésus. Notez que le prophète Daniel a reçu une réponse immédiate à sa prière. Il ne faut que 3 minutes pour lire la prière de Daniel dans le texte hébreu original. Gabriel était déjà là alors que Daniel terminait sa prière. Dieu a fait cette promesse. « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. » Le prophète Ésaïe, chapitre 65, verset 24. Notez que Daniel est un bien-aimé dans le ciel. C'est merveilleux. Un croyant en Jésus-Christ est vu en Christ Jésus. Selon Éphésiens, chapitre 1, verset 6, nous sommes acceptés et accueillis parce que nous sommes dans le bien-aimé. Le croyant est aimé au ciel parce qu'il est dans le Christ Jésus. Poursuivons notre lecture, Daniel, chapitre 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. 70 semaines ne signifie pas plus qu'une semaine de 7 jours, qu'il peut désigner une période de 7 ans ou encore 7 périodes de temps quelconque. Le mot hébreu « shabuah » représente une mesure de quantité. Le mot se compare à une douzaine. Une douzaine est une quantité. Je peux avoir une douzaine de n'importe quoi. Une douzaine d'œufs, une douzaine de crayons, une douzaine de jours. L'expression 70 semaines signifie donc 70 septénaires ou 70 septaines. L'expression pourrait signifier 70 septaines de n'importe quoi, jours, semaines, mois, années. Dans le contexte de ce verset, il est clair que Daniel a lu au sujet des 70 années. Jérémie enseignait que la captivité durerait 70 ans. La captivité a duré 70 ans, car Israël avait violé 70 années sabbatiques. Cette violation des années sabbatiques s'est produite sur une période de 490 ans. 7 × 70. Israël est donc demeuré en captivité pendant 70 ans. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. 2 Chroniques, chapitre 36, verset 21. Dans cette prophétie, une semaine égale 7 ans. 70 semaines égale 490 ans. Les 70 semaines sont divisées en 3 périodes. 7 semaines, 62 semaines et 1 semaine. Daniel éprouvait de la difficulté à comprendre comment la fin de la captivité de 70 ans pouvait cadrer avec le temps des nations, une grande période où les nations domineraient le monde selon les indications claires des chapitres 7 et 8 du prophète Daniel. Daniel pensait qu'après 70 ans, Israël retournerait dans son pays et que le Messie promis viendrait et que le royaume promis à David serait établi. Comment concilier la durée de la captivité et le temps des nations? Comment est-ce que les deux prophéties peuvent être vraies? La conciliation de deux prophéties apparemment contradictoires devait lui sembler impossible. Les 70 semaines ou les 70 septaines répondent à deux questions. Le royaume d'Israël ne sera pas établi immédiatement. Les 70 septaines doivent s'écouler. Les 70 septaines cadrent avec le temps des nations, et les deux s'écoulent en même temps. Les 70 septaines sont divisées en 3 périodes pour concorder avec le temps des nations. Le prochain verset indique ces 3 périodes. Les 70 septaines et le temps des nations termineront en même temps, soit à la deuxième venue de Jésus-Christ. Nous devons savoir cela pour bien comprendre la prophétie. Quel peuple est concerné par les 70 semaines? Les 70 semaines concernent ton peuple, c'est-à-dire Israël, le peuple de Daniel. Elles concernent aussi la ville sainte, qui ne peut être que Jérusalem. 6 choses seront accomplies pendant ces 70 semaines ou ces 490 ans. Lorsque nous avancerons dans notre étude de la prophétie, nous verrons que 69 de ces semaines sont passées et il n'en reste qu'une qui n'est pas encore passé. Quelles 6 choses seront accomplies pendant les 70 semaines? Voici les 6 choses qui seront accomplies pendant ces semaines. Premièrement, faire cesser les transgressions. Ceci réfère aux transgressions du peuple d'Israël. La crucifixion du Seigneur Jésus était une rédemption pour les péchés, dont ceux de la nation, mais tous les Israélites ne l'ont pas accepté. Aujourd'hui, le message rédempteur de Dieu, l'Évangile, a été proclamé dans le monde entier. Cependant, au sujet de la dernière semaine, Dieu dit « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. » Le prophète Zacharie, chapitre 12, verset 10. « En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. » Zacharie, chapitre 13, verset 1. cette source ne coule pas encore. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe en Israël pour voir que cela n'est pas encore accompli. Deuxièmement, mettre fin au péché. Les péchés collectifs de la nation d'Israël cesseront à la deuxième venue de Jésus-Christ. Le peuple juif ressemble à toutes les autres nations. Les individus pêchent personnellement et collectivement, tout comme les autres nations. La nation d'Israël a fait de nombreuses erreurs, mais Dieu mettra de l'ordre dans tout cela. Troisièmement, pour expier l'iniquité. Pendant la période de 70 semaines, Dieu a pourvu une rançon ou une rédemption par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Cette rédemption sauve les croyants juifs ainsi que les croyants des autres nations. Quatrièmement, amener la justice éternelle. Ceci réfère au retour de Jésus-Christ à la fin des 490 ans pour établir son royaume. Cinquièmement, pour sceller la vision et le prophète. Toutes les prophéties seront accomplies. Nous verrons que toutes les prophéties de la Bible étaient exactes et vraies. Sixièmement, pour oindre le Saint des Saints. C'est le lieu très saint du temple millénaire qui sera oint. Le temple dont a parlé Ézéchiel dans les chapitres 40 à 46. Revenons au prophète Daniel, lisons chapitre 9, les versets 25 à 27. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Il est nécessaire de bien déterminer le début de la période de 490 ans pour bien comprendre les prophéties. Puisque cette période se déroule pendant le temps des nations, elle doit se situer dans l'histoire séculière et avoir son origine à une date ayant un rapport avec le temps des nations. Plusieurs dates ont été avancées comme point de départ pour la période de 490 ans. Le décret de Cyrus, que nous retrouvons dans Esdras, chapitre 1, verset 1 à 4. Le décret de Darius, dans Esdras, chapitre 6, verset 1 à 12. Le décret d'Artaxerxès, la 7e année de son règne, Esdras, chapitre 7, verset 11 à 26. Et le décret d'Artaxerxès, la 20e année de son règne, Néhémie, chapitre 2, versets 1 à 8. Il semble que la dernière suggestion, la 20e année du règne d'Artaxerxès, soit celle qui réponde aux exigences du verset 25. Le décret ordonnant la reconstruction de Jérusalem a été mis en l'an 445 avant Jésus-Christ. Ce sera donc notre point de départ. Les 7 premières semaines, qui durent un total de 49 ans, nous amènent en l'an 397 avant Jésus-Christ, et au livre de Malachie, à la fin de l'Ancien Testament. Néhémie et Malachie ont rapporté que c'était des temps fâcheux. Les 62 semaines suivantes, ou les 434 années, nous amènent à Jésus-Christ, le Messie. Du premier jour du mois de Nisan au 10e jour du mois de Nisan, de l'an 32 après Jésus-Christ, il y a 173 880 jours. En les divisant par 360, c'est-à-dire le nombre de jours dans une année juive, nous obtenons 483 années, soit 69 septénaires. Ce jour-là, Jésus est entré à Jérusalem et, pour la première fois, il s'est présenté publiquement et officiellement comme étant le Messie. Quels deux événements doivent se produire entre la 69e et la 70e semaine? Après la 69e semaine, ou les 483 ans, il y a une interruption. Entre la 69e et la 70e semaine, deux événements super importants doivent se produire. Les voici. Premièrement, le Messie sera retranché. Cet événement est la crucifixion du Seigneur Jésus, le grand mystère de l'Évangile. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Matthieu chapitre 16, verset 21. « Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle », l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 15. Et deuxièmement, « Jérusalem doit être détruite ». Ceci s'est produit en l'an 70 après Jésus-Christ. Titus, le général romain, a complètement détruit la ville. La dernière semaine, la 70e, une période de 7 ans, aura lieu dans l'avenir et ne suit pas immédiatement et chronologiquement les 69 premières semaines. La période de temps entre la 69e et la 70e semaine est la dispensation de la grâce, c'est-à-dire la période de l'Église. Les prophètes ne connaissaient pas cette période. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens chapitre 3, verset 1 à 12, et dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12. La 70e semaine est eschatologique. C'est celle de la fin, et la prophétie annoncée doit encore s'accomplir. Le prince est un Romain. Il est la petite corne du chapitre 7 du livre de Daniel. Il est la bête du chapitre 13 de l'Apocalypse. C'est l'abomination de la désolation. Ce que Israël prenait pour le millénium s'avérera être la grande tribulation. Matthieu 24, versets 15 à 26. Seul le retour de Jésus-Christ mettra fin à cette abomination. Matthieu 24, les versets 27 à 31. Mes amis, nous vivons dans la dispensation de la grâce, dans l'âge de l'Église, et la 70e semaine de Daniel n'est pas encore passée. C'est la grande tribulation, et elle doit encore venir un jour. Une question importante. Mes amis, que signifie pour vous le fait que vous vivez dans la dispensation de la grâce, dans l'âge de l'Église? Cette question est importante. Le fait que vous viviez dans la période de l'Église signifie que pour vous, c'est le temps du salut. La grâce de Dieu vous est offerte, et en l'acceptant, vous pouvez avoir l'assurance de passer l'éternité au ciel en présence de Dieu. Car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Un jour, Jésus-Christ reviendra et il n'y aura plus de possibilité de salut. Ce sera le temps du jugement. Un jour, la mort nous surprendra et après elle vient le jugement. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux, chapitre 9, versets 27 et 28. Mes amis, comptez-vous parmi ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme sauveur personnel? Et l'attendez-vous pour votre salut? Comptez-vous sur lui pour vous conduire en présence du Père Céleste? Croyez-vous en lui? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. L'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 1. Nous n'avons pas à craindre pour l'état éternel de notre âme. Nous n'avons qu'à croire en Jésus-Christ et à répondre à son appel. C'est auprès de lui que nous obtenons le pardon de nos péchés et que notre âme est comblée. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, les versets 28 à 30. Jésus-Christ est venu pour nous apporter le pardon de nos péchés. Croyez en lui, et vous serez, par le fait même, pardonnés de tous vos péchés. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Daniel chapitre 10, les versets 1 à 10. À vous tous, bonne lecture.
Merci, Régent. Tu as dit quelque chose qui est tellement important que j'aimerais le répéter pour nos auditeurs. Tu as dit que le fait qu'on vit présentement dans la période de l'Église signifie que pour nous, c'est le temps du salut. Mes amis, comme Régent l'a mentionné aujourd'hui, la grâce de Dieu vous est offerte. Et en l'acceptant, vous pouvez avoir l'assurance de passer l'éternité au ciel dans la présence de Dieu. Il nous a aussi donné une bonne mise en garde en disant que le Seigneur Jésus reviendra un jour et qu'à ce moment, il n'y aura plus de possibilité de salut pour qui que ce soit. ce sera le temps du jugement. Oh, mon ami, un jour la mort te surprendra. Et si tu penses que tu pourras prendre une décision à ce moment-là, je t'en supplie, sache que ceci est un mensonge de l'ennemi qui ne veut pas que tu passes l'éternité au ciel avec Dieu. Réjean nous a cité le 9e chapitre de l'Épître aux Hébreux, aux versets 27 et 28, et j'aimerais les relire parce qu'ils sont tellement importants. Alors voici. « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Mon ami, il est temps maintenant de recevoir le cadeau que Dieu t'offre, le don gratuit de la vie éternelle. Tu ne sais pas si tu vivras demain, et alors il sera trop tard. Dieu savait que tu serais sur cette terre, en cette période de l'histoire. Il savait que tu serais un pécheur, une pécheresse. D'ailleurs, Paul nous dit dans son épître aux Romains, au chapitre 3, verset 23, que tous ont péché. Mais dans son amour, Dieu a pourvu à ton pardon, mon ami. Il a déversé sa colère sur son propre fils Jésus. Ce Jésus merveilleux qui t'aime s'est laissé crucifier, mettre à mort. Il a été l'ultime sacrifice que son Père a agréé pour que tu puisses être pardonné et pour que tu aies un libre accès dans le royaume de Dieu pour l'éternité. Mais pour recevoir ce cadeau, tu dois avouer que tu es un pécheur, une pécheresse perdue. Mon ami, crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? Crois-tu qu'il s'est fait homme pour venir recevoir la condamnation qu'on méritait tous pour nos péchés? Si oui, repens-toi. Change de direction à l'égard du péché et tourne tes regards vers Jésus. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Mon ami, n'essaie pas de te sauver toi-même. Tu en seras incapable. Quand même, tu accomplirais plein d'œuvres. Paul nous dit ceci dans le 2e chapitre de son épître aux Éphésiens, aux versets 8 et 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mon ami, reçois Jésus dans ton cœur maintenant. Il est là à la porte et il frappe. Ouvre la porte de ton cœur. Tu sais, la poignée est par en dedans. Il y a juste toi qui peux l'ouvrir. Jésus forcera pas la porte. Jésus est doux et humble de cœur. Et en toute douceur, il frappe à ta porte. Est-ce que tu vas laisser la porte fermée? Ouvre-la et demande à Jésus d'entrer. Laisse-le entrer dans ton cœur. Tu vas devenir un enfant de Dieu. Tu vas passer l'éternité dans la présence de Dieu. Tu sais, le Seigneur, il te l'a réellement promis.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Mais qui es-tu, Caro?
Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'Évangile de Dieu. Avec toi, Réjean, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors, je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir. Et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux.
Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR 1-877-537-7647 Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca ou l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.